Emmanuel Macron a mené une politique vis-à-vis des milliardaires ultra favorable. C'est une perfection ce qu'il a fait.
Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à deux fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé de faire appel à vous.
Dès son élection, devant le musée du Louvre à Paris, le plus jeune président de la Ve République va promettre de mieux prendre en considération les électeurs du Rassemblement national.
Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Malgré cette promesse, dès le début de son quinquennat, ce sont plutôt des plus grandes fortunes de France qu'Emmanuel Macron va favoriser à coups de cadeaux fiscaux. Avant Macron, l'impôt sur la fortune, l'ISF, prélevait au maximum 1,5% du patrimoine des plus riches. Ils étaient taxés sur leurs biens immobiliers, châteaux, villas de luxe, et sur leurs placements financiers qu'on appelle des valeurs mobilières. Précision, pour les 0,1% les plus fortunés, ces placements financiers représentent 80% de leur richesse. Or, avec Macron, ces valeurs mobilières, ces placements financiers, actions, etc., vont échapper à l'impôt sur la fortune. Des placements qui font pourtant l'essentiel de la fortune des plus aisés.
Dès que vous passez à 10% ou 10% les plus riches, 5% les plus riches, 1% les plus riches, 0,1% les plus riches, vous voyez la part du capital financier qui augmente, en fait, et qui augmente de façon très importante, au point que les ultra-riches en France ont principalement, la structure de leur fortune, c'est principalement du capital financier, c'est-à-dire ce qui a été exonéré d'impôts sur le patrimoine par la réforme de 2018.
Ces grandes fortunes à qui Macron a fait cet incroyable cadeau fiscal, cette chercheuse du CNRS les étudie depuis une vingtaine d'années.
J'aime beaucoup celle-ci aussi.
Elle en a tiré ce livre, co-signé avec un talentueux photographe.
Ça raconte l'histoire d'une oligarchie. Un certain nombre de personnes qui sont issues des grandes familles fortunées de l'aristocratie et de la bourgeoisie, qui sont issues des mêmes quartiers, les beaux quartiers.
De nombreuses études confirment aujourd'hui que les 500 plus grandes fortunes de France, celles pour qui Macron a atténué l'ISF, celles dont le patrimoine a été multiplié par 6 en 15 ans pour atteindre près de 45% du PIB, ont été très avantagés par les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron. L'État, en revanche, y a perdu beaucoup d'argent. Selon ce rapport gouvernemental de 2023, le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, aurait fait perdre plus de 4 milliards d'euros aux finances publiques rien qu'en 2022. Si les placements financiers des plus riches échappent à l'ISF depuis 2018, les revenus du capital générés par ce patrimoine financier, comme les dividendes, sont également beaucoup moins taxés. Avant Macron, c'était jusqu'à 45%. Mais à l'arrivée au pouvoir de Macron, ce taux d'imposition est réduit à 12,8%. C'est la magie de la flat tax. Bizarrement, les médias des milliardaires vont avoir tendance à escamoter ce taux d'imposition très bas de 12,8% pour communiquer plutôt sur un mystérieux taux à 30%.
Après des semaines de débats tendus, l'Assemblée nationale a donné son feu vert cette nuit à la flat tax, une taxe forfaitaire de 30% sur les revenus de votre épargne. L'objectif du gouvernement, simplifier les dispositifs et inciter davantage les Français à investir dans l'économie.
Ces 30%, c'était un tour de passe-passe médiatique, selon Monique Pinson-Charlot.
Quand il s'agit des revenus du capital, on intègre tous les prélèvements sociaux. Et donc, tout le monde croyait que c'était 30%. Donc, ça paraissait pas un cadeau si extraordinaire que ça. Tandis que quand il s'agit des impôts sur les revenus des salariés, là, on n'intègre jamais la CRDS et les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, parce que sinon, comme ça grimpe jusqu'à 45%, on arriverait à 60%. Et donc, ça a marché. Ça a marché et il y a encore plein de gens qui ne peuvent pas comprendre que c'est 12,8% la nouvelle imposition sur les revenus du capital.
Ces cadeaux fiscaux vont évidemment ravir les grandes fortunes des médias, notamment Xavier Niel, alors propriétaire du groupe Le Monde. C'est ce que révélera cette passionnante enquête de la journaliste Sophie Desdéserts dans Vanity Fair. Témoignage de sa consœur Aude Lancelin.
Lorsque Emmanuel Macron, à peine élu, a passé la flat tax et l'exit tax, dont on sait de quoi il prive aujourd'hui les Français en termes de revenus fiscaux massifs, Xavier Niel lui a répondu par un smiley. Un smiley radieux, ravi, etc. C'est la mesure que nous attendions et c'est pour ça que nous avons poussé pour que tu sois au pouvoir.
Selon le très libéral Institut Montaigne, cette flat tax réduite à 12,8%, c'est un cadeau fiscal de 3,6 milliards d'euros aux plus riches chaque année. Ajouté aux 4 milliards déjà offerts avec la suppression de l'ISF, ça fait presque 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes fortunes par an. Dans le même temps, les macronistes vont matraquer fiscalement les plus pauvres. RTL Matin. Quand le Premier ministre annonce fin 2018 une nouvelle taxe diesel, elle est censée favoriser une transition écologique.
On va progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur le carbone et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail.
Mais selon des mails secrets échangés en 2016 entre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et un collaborateur, c'est en réalité une baisse des cotisations patronales que devait permettre cette hausse de la fiscalité diesel. Problème, ces cadeaux fiscaux aux entreprises coûtent près de 75 milliards d'euros par an aux contribuables. En novembre 2018, des milliers de gilets jaunes furieux de cette politique fiscale pro-riche vont tenter d'envahir l'Élysée. Le 1er décembre 2018, ils sont plusieurs milliers à prendre d'assaut l'Arc de Triomphe. Des scènes de révolte qui auraient fortement inquiété l'exécutif, selon ce syndicaliste policier.
La République a réellement tremblé le 1er décembre. D'ailleurs, il y a eu des appels où on se demandait si les grilles, finalement, de l'Élysée ou de Beauvau n'allaient pas tomber parce que les manifestants s'en rapprochaient de plus en plus et que c'était extrêmement compliqué de tenir.
Le samedi suivant, le gouvernement va déployer 40 000 policiers et gendarmes dans les rues avec des blindés pour protéger l'Élysée. Ce soir-là, au cœur du palais, des caméras de la présidence filment une réunion de crise.
Alors, dites-moi un peu.
Depuis 16 heures,
le public gilet jaune est remplacé par des casseurs, par des provocateurs, qui sont en train de se livrer aux abords des Champs-Élysées, dans le quartier de Saint-Augustin, à des tensions avec les forces de l'ordre, tensions qui s'accompagnent de voitures brûlées et de quelques pillages. Lyon, où se déroule en même temps la fête des Lumières, où il y a eu une manifestation place Bellecour et une tentative d'intrusion dans la mairie. À Bordeaux, c'est toujours en cours. Les images montrent que sur la place principale de Bordeaux, il y a des affrontements, avec également une tentative de pénétration dans la mairie. Marseille, 600 anarchistes qui ont été rejoints par 400 jeunes des quartiers qui se livrent à quelques pillages de boutiques. Ça a été tendu dans la journée à Grenoble, puisque le mot d'ordre des gilets jaunes tenus par l'ultra-gauche était d'envahir la préfecture.
On a des risques de débordement juste sur le sujet MO. Je comprends qu'à Paris, la situation est quand même modulo des petits points de fixation sous contrôle. Où est-ce qu'on a un maintien d'une vraie conflictualité ? À Toulouse ?
À Toulouse, Saint-Étienne.
Saint-Étienne, Bordeaux.
Et Bordeaux.
Bordeaux et Lyon, où Lyon s'est passé ?
Lyon, ça s'est calmé.
Oui, j'avais Bordeaux, que Lyon, ça s'est calmé, mais Bordeaux, effectivement.
On surveille leur activité sur les réseaux.
On apprendra que le jour même de cette réunion de crise, un hélicoptère était prêt à décoller pour exfiltrer le président.
Face à la crise des gilets jaunes, le président français va prendre la parole dans une allocution pour tenter de désamorcer la...
48 heures plus tard, le président prépare une allocution télévisée.
Allez, juste deux petites modifs. Sur la version, tu l'as là-bas, le texte ?
Ouais.
Ils enlèvent la chaîne, on est prêt. La version est dans l'hexagone et outre-mer.
D'accord.
Et puis, okay. OK. Allez. Bon, tu m'as écouté, ça va pas l'image.
Plutôt que de remettre en cause sa fiscalité pro-riche, il va demander à ses amis patrons de le soutenir financièrement dans la tempête.
Français, France. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés.
Dès le lendemain, des milliardaires des médias proches du président s'exécutent. Patrick Drahi, Bernard Arnault ou encore Xavier Niel promettent 1000 euros de prime à leurs employés. S'ils se précipitent ainsi au secours du président, c'est qu'il a développé avec chacun d'eux des rapports d'intérêt. À commencer par le propriétaire du groupe Le Monde, soutien des premières heures d'Emmanuel Macron. Dès 2017, Emmanuel Macron va réserver l'un de ses premiers déplacements présidentiels à son ami Xavier Niel. Ce jour-là, dans une ancienne gare parisienne, ils inaugurent un temple de la Startup Nation tant vanté par Emmanuel Macron.
Entrepreneur is the new France. Et ça commence ici, avec vous.
Yes! Et ce jour-là, The President va évoquer les winners, mais aussi avoir un mot malheureux pour les gens qu'il trouve insignifiants. Souvenez-vous.
Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il y a 3 ans, à peu près, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est vrai, et je crois que Xavier Niel peut témoigner.
Leur amitié remonte à 2010. En 2014, ils visitent ensemble la Silicon Valley, temple high-tech mythique de la Californie. À l'automne 2018, Emmanuel Macron propose aux propriétaires du Monde de candidater à la mairie de Paris sous les couleurs de La République en marche. Niel décline. Officiellement, son truc, c'est pas de protéger le président, c'est l'investigation. C'est ce qu'il expliquera devant le Sénat en 2022.
Sérieux, raisonnable. Vous avez une jeune génération qui ont envie de faire l'investigation. Et souvent, on a discuté de ça au Monde en se disant, est-ce qu'on ne devrait pas former plus de gens pour faire l'investigation? Parce que l'investigation, c'est quand même le cœur de ce métier. Et en général, si vous voulez avoir une vie tranquille, vous ne faites pas d'investigation dans des journaux.
L'investigation, donc. En 2011, Niel aurait pourtant reconnu en off que c'est plutôt pour faire taire les critiques qu'il investissait dans la presse.
Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix.
Questionné sur cet aveu par un sénateur en 2022, Xavier Niel se montrait embarrassé.
J'ai un problème. Je suis sous serment. Et si je vous raconte quelque chose de faux, c'est 5 ans de prison.
Essayez, on verra.
Je suis incroyablement ennuyé parce que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais dit cette phrase. Maintenant, mes détracteurs... Oui, je sais bien, non, mais j'en doute pas, et c'est dans un livre, on va en parler. Mes détracteurs, mes concurrents me la font toujours porter. Et je vous avouerai, ça me fait tellement plaisir de leur faire plaisir que je suis obligé de continuer de soutenir que je l'ai dit. Alors je suis un peu gêné, je dis non, mais je l'ai dit en off, je ne sais plus quoi inventer à chaque fois. Malheureusement, je suis censé l'avoir dit d'après un livre.
Ces dénégations embarrassées de Niel ne convainquent pas la journaliste Aude Lancelin. Virée de son groupe Le Monde en 2016 pour avoir critiqué le virage libéral de François Hollande, elle se fait peu d'illusions sur la récente passion de son ancien employeur pour l'investigation.
Xavier Niel profite, on va dire, de l'aura maléfique de Vincent Bolloré. Et de sa percée fulgurante, avec une ligne extrêmement radicale pour se faufiler et se faire passer quasiment maintenant pour le protecteur des journalistes, le saint patron des journalistes. Je cite, parce que c'est important, l'investigation.
Saint patron des journalistes, Xavier Niel ? Plutôt fan de Macron. Fin 2018, alors que le président fait matraquer des reporters et éborgner des gilets jaunes, le propriétaire du Monde va lui rendre un vibrant hommage sur Europe 1.
Je ne suis pas à la mode quand je vais vous dire ça. Je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France. Il faut qu'il la réforme de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il l'a réformé ou qu'il l'a fait pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques. Aujourd'hui,
alors, c'est quand même amusant que Xavier Niel, qui se vante de ne pas être interventionniste et de ne pas donner le « là » à ses journalistes ou que ce soit, soit lui-même monté au créneau après les Gilets jaunes pour dire que les Français avaient une chance folle d'avoir ce président... et que, à quel point il avait de l'estime pour lui et à quel point Macron avait absolument tout son soutien. Donc, vous savez, les journalistes, dans un contexte de chantage à l'emploi, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. L'autocensure est quand même la règle au sein de notre profession. Or, à la tête du journal Le Monde, qui vous avez ? Vous avez Jérôme Fenoglio. Et quand vous reprenez l'histoire, là, une fois de plus, je n'invente rien, hein, c'est totalement documenté. Jérôme Fenoglio a été nommé par Xavier Niel à la tête du Monde parce qu'il avait fait un véritable panégyrique du hacker génial, etc. Xavier Niel dans les colonnes du Monde. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et c'est pour ça que Xavier Niel a toute confiance en lui.
Et ces dernières années, Niel a donné d'autres coups de main médiatiques plus discrets à la Macronie. En 2020, le quotidien Nice Matin cherche un repreneur. Le maire de la ville, Christian Estrosi, un LR rallié à Macron, est alors débordé sur sa droite par Éric Ciotti, qui prône pour sa part une alliance avec le Rassemblement National. À un an des élections municipales, Nice Matin devient stratégique. Si le très réac Iskandar Safa, le propriétaire de Valeurs Actuelles, le rachète, Nice Matin risque de tomber entre les mains de l'extrême droite. Dans ce contexte, Xavier Niel va racheter Nice Matin au nez et à la barbe du camp Ciotti. Décryptage du spécialiste média du Canard Enchaîné.
Quand Niel va racheter Nice Matin, c'est pas parce que c'est pas un projet d'industriel, c'est parce que Macron le lui demande. C'est tout. Et moi, quand j'avais interrogé Xavier Niel là-dessus, en lui disant quand même vous êtes allé un peu en service commandé, il s'était marré. Il va pas vous dire oui, c'est vrai, mais il s'est marré, puis on s'est compris, quoi. On comprend bien que, oui, effectivement. Ça, c'est, en tout cas, le rachat dit ce matin par Xavier Niel, c'était pas pour déplaire à M. Macron, ça c'est sûr. Par contre, ça a beaucoup déplu à M. Ciotti.
Si Xavier Niel a réussi son coup à Nice, il va en revanche se casser les dents à Marseille. Dans la cité phocéenne, le propriétaire du Monde possède 11% de la Provence, quotidien local longtemps contrôlé par Bernard Tapie. Et en 2021, Niel se met en tête de prendre le contrôle total du journal. Sauf qu'il a laissé un mauvais souvenir aux journalistes de la rédaction.
Bon, il faut savoir que Xavier Niel, du temps où il était actionnaire minoritaire avec Bernard Tapie, on ne l'a pas vu une seule fois au journal. C'est-à-dire qu'il a laissé, sans mot dire, s'inscrire des dérives dans ce journal, mais des choses qui feraient hurler tout journaliste. Une confusion entre la pub et l'info, une absence totale d'investissement, une collusion avec les pouvoirs politiques, des directeurs de la rédaction qui ont été nommés, des Franz-Olivier Gisbert, par exemple, pour ne pas le citer, qui a été une véritable catastrophe pour ce journal, qui a pris parti pour la droite locale au moment des élections municipales. Enfin, bon, j'en passe et des pires.
Fin 2021, Niel se croit pourtant en position de racheter la Provence pour une bouchée de pain, 20 millions d'euros. Sauf qu'un autre milliardaire, le franco-libanais Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA-CGM, va mettre 4 fois plus d'argent sur la table. Début 2022, le tribunal de commerce de Marseille choisit donc Saadé. Niel est furieux.
Donc Rodolphe Saadé avait fait une offre à 80 millions d'euros et Xavier Niel voulait la bloquer en vertu de son pacte d'actionnaire qu'il avait passé avec Tapie, qui lui permettait de refuser un nouvel actionnaire. Et on apprend donc que Xavier Niel va venir rencontrer le personnel de la Provence, officiellement, alors qu'il vient d'être débouté par le tribunal.
Le 2 mars 2022, contre l'avis de nombreux salariés, Xavier Niel débarque à la Provence.
Il y a le sentiment
que vous venez,
parce qu'aujourd'hui vous avez besoin des salariés que vous ignorez depuis des années.
Mais pourquoi ? Alors attendez, je vais vous adresser, pourquoi on a besoin des salariés ?
C'est notre question.
Bah donc il n'y a pas de problème, parce que je crois là, parce que vous n'avez pas besoin de vous dans vos propos.
Le problème, ce n'est pas que vous soyez bien, monsieur Niel, il n'y a pas... Si, y a pas
parce qu'on m'a dit que j'étais interdit, j'ai cru comprendre que j'étais interdit de séjourner.
Il y a une procédure.
On nous fait une petite salle cachée.
Non mais là on n'est pas dans la procédure.
À l'époque, on était vraiment exaspérés par cette situation. On était exaspérés. On avait notre outil de travail qui était en train de partir en lambeaux. Et on avait deux actionnaires qui se battaient comme des chiffonniers, des millionnaires qui se battaient comme des chiffonniers. En plus, sur un journal qui était à l'agonie, quoi. Qui était à l'agonie.
Est-ce que je suis un actionnaire minoritaire de cette entreprise ?
Vous n'êtes pas là au titre de l'actionnaire minoritaire.
Pardon, monsieur, je vous en prie.
Débarque alors Jean-Christophe Sarfati, le PDG de la Provence. Lui préférerait que son journal soit repris par la CMA-CGM de Rodolphe Saadé.
Donc vous souhaitez que je parte ? C'est la seule question, monsieur. Vous êtes le directeur de l'établissement. Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille ? Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille ? C'est ma question et répondez clair, oui ou non ?
Oui.
Je m'en vais, monsieur. Excusez-moi. Vous l'avez souhaité, on est bien d'accord.
Oui,
Anthony ?
Oui, je vous empêchais pas de faire la réunion.
Si vous voulez quitter cet établissement. Oui ou non ? Vous m'avez demandé de quitter cet établissement. Mais la question, elle est simple, monsieur Sarfati. Il faut s'assumer. Vous êtes un employé de CMA-CGM. Est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement ? Donc ma question aujourd'hui, vous me demandez de sortir d'ici.
Sortez-vous.
Voilà.
Six mois plus tard, les deux milliardaires trouveront un accord.
On apprend qu'à l'occasion d'un voyage à Alger avec Emmanuel Macron, les deux milliardaires se sont enfin tombés d'accord.
Rodolphe Saadé proposera finalement à Xavier Niel de lui racheter ses 11% de la Provence pour 29 millions d'euros, soit près de 15 fois ce que Niel espérait.
Donc j'ai pas fait le calcul, mais Niel a fait une très très belle affaire.
En juin 2024, avec ses millions d'euros, Xavier Niel va faire une acquisition autrement plus stratégique pour les Macron.
Xavier Niel, il rachète par exemple la fameuse boîte de Best Image de Mimi Marchand, la grande copine qui a fait toutes les campagnes de communication de Macron et de Madame. C'est Xavier Niel qui rachète ça, c'était au cœur de l'été. Xavier Niel rachète la boîte avec tout le fonds d'image de Macron, parce qu'il faut quand même savoir que Chez Best Image, vous avez tout le fond d'image de Macron, Madame, Monsieur, etc. Donc ces images-là, maintenant, elles appartiennent à Niel, c'est-à-dire aux copains de Macron. Il ne faut pas que ça tombe dans les mains d'un ennemi, c'est ça que c'est. Quand vous rachetez une agence de presse People, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un fond d'image. Il y a celles qui sont parues, puis il y a celles qui ne sont pas parues. Celles qui ne sont pas parues, on ne veut pas qu'elles paraissent.
Et si Emmanuel Macron est protégé par Xavier Niel depuis le début de sa carrière politique, il peut désormais compter sur le soutien d'un autre milliardaire des médias, le franco-libanais Rodolphe Saadé. Propriétaire de La Provence, qu'il avait raflé au nez et à la barbe de Niel, mais aussi de BFM TV et de RMC, il serait encore plus inféodé à l'Élysée.
Je ne trahis pas de secret. Une fois que j'avais eu Xavier Niel au téléphone, il m'avait dit, à l'époque où il se disputait la Provence, et il me dit, mais ce serait grave que Saadé prenne la Provence, vous savez. Il est macroniste. Mais je lui dis, mais attends, venant de vous quand même. Non, il me dit, ça n'a rien à voir avec moi. C'est beaucoup plus que moi.
Le franco-libanais Rodolphe Saadé serait-il le plus macroniste des magnats de la presse? Ces dernières années, il a en tout cas tout fait pour que le président ne taxe pas ses super profits maritimes. À la mort de son père, Jacques, en 2018, Rodolphe Saadé hérite de la CMA-CGM, troisième groupe de transport maritime mondial. Milliardaire philanthrope, il finance des opérations humanitaires, des cantines solidaires ou prête ses bateaux, comme récemment pour Mayotte.
Je suis de ceux qui pensent que l'entreprise doit aller au-delà, qu'elle a un véritable rôle à jouer dans la société.
Premier employeur privé de Marseille, la CMA-CGM est aussi le principal sponsor de l'OM, le club de cœur d'Emmanuel Macron. Comme ses amis oligarques, Saadé a intérêt à se faire bien voir du président, notamment pour continuer à bénéficier d'un incroyable avantage fiscal. On vous explique. Après la crise Covid et le ralentissement des échanges internationaux, la reprise de 2021 va faire exploser les profits des transporteurs maritimes. Rien qu'entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de CMA-CGM a presque doublé. Ce qui a entraîné des bénéfices records. 16,4 milliards d'euros en 2021, plus de 23 milliards en 2022. Ces super profits de Rodolphe Saadé, ce député PS les a analysés.
Au moment où le déconfinement s'est lancé, il y a eu un très très grand besoin en fait de transport maritime et finalement très peu d'armateurs pour l'assurer. Si bien que le prix du conteneur a explosé. Donc il était en moyenne à peu près de 2000 euros le conteneur et on est passé à 20 000 euros. Donc c'est x10. Et donc ça a fait exploser les profits de toute cette industrie de l'affrètement.
Problème, depuis 2004, les compagnies de fret maritime ne sont plus taxées sur leurs profits, mais au tonnage. Sur le volume des marchandises transportées. Très pénalisant pour l'État, ce cadeau fiscal avait été décidé par un ministre des Transports chiracien, Dominique Bussereau. Après avoir fait gagner des milliards à CMA-CGM, il avait été se mettre au service de CMA-CGM. Bonjour le conflit d'intérêts. D'autant qu'en 2022, Philippe Brun va découvrir que le cadeau fiscal décidé sous Bussereau était colossal. Sur ses 45 milliards de profits réalisés par CMA-CGM entre 2020 et 2023, Saadé n'a payé que 2,7% d'impôts. Comparé aux 25% que les entreprises payent normalement, c'est un immense manque à gagner pour l'État. Fin 2022, alors que le déficit public atteint 125 milliards d'euros et qu'avec plus de 23 milliards d'euros de profits, CMA-CGM est l'entreprise la plus rentable du CAC 40, notre député va tenter de convaincre le Parlement d'imposer davantage les super-profits.
Vous voyez bien qu'il y avait en cours un dérapage des comptes publics. Donc pour trouver d'autres recettes, mon idée en 2022, c'était de dire qu'il faut mettre à contribution toutes les entreprises qui réalisent des super profits en raison de la crise, et CMA-CGM en était une.
À l'époque, même Léa Salamé va demander à Rodolphe Saadé s'il ne devrait pas payer un peu plus d'impôts.
Vos profits, en tout cas, ont explosé ces deux dernières années. Je le disais, vous avez fait des profits supérieurs à Total et LVMH avec un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars prévu pour 2022. C'est colossal. C'est dû pour vous non pas à la guerre en Ukraine, comme pour Total, mais à la reprise post-Covid qui a fait flamber les prix des transports de marchandises. Alors, à profit exceptionnel, taxe exceptionnelle, ne faudrait-il pas, par souci de justice, payer cette taxe exceptionnelle, ces dividendes exceptionnels ou cette taxe sur les dividendes exceptionnels? Est-ce qu'il ne faut pas faire d'efforts?
Ce qui est important à souligner, Léa Salamé, c'est que nous sommes ni responsables ni bénéficiaires de cette inflation. Nous prenons des mesures depuis maintenant plusieurs mois pour aider au pouvoir d'achat des Français en réduisant les tarifs de fret. Aujourd'hui, si on regarde au plus haut de la crise du Covid, le tarif de fret sur une paire de baskets représentait 1 euro. Et maintenant que les tarifs de fret ont beaucoup baissé, cette différence n'est plus que de 30 centimes sur une paire de baskets.
N'empêche, si Saadé avait payé 25% d'impôts sur les bénéfices, comme les autres entreprises françaises, c'est plus de 11 milliards d'euros supplémentaires qui seraient entrés dans les caisses de l'État entre 2020 et 2023. Fin 2022, quand Philippe Brun tente d'abolir la niche fiscale Bussereau, il va faire face à une incroyable campagne de lobbying.
On est allé interroger mes proches, faire pression sur des gens que je connais. On est même allé essayer de mobiliser un certain nombre de figures du Parti Socialiste pour faire pression sur mon amendement. Je crois qu'il y a un certain nombre de méthodes qui ne sont pas acceptables. Il n'y a pas que ça. Il y a à la fois le lobbying politique et puis aussi le lobbying intellectuel. Et on sait qu'il y a un certain nombre de soi-disant économistes qui ont été payés pour écrire des tribunes de complaisance pour dire que le régime de taxe au tonnage était formidable.
Entre 2019 et 2023, Saadé aurait dépensé près de 2,5 millions d'euros pour dissuader les macronistes de le taxer comme les autres entreprises françaises. Et ça marche. Alors qu'une taxe sur les super-profits rapporterait au moins 10 à 20 milliards d'euros par an, selon l'Oxfam, pour récupérer une partie de ces milliards, Macron choisira plutôt de faire bosser les vieux encore plus vieux en retardant le départ à la retraite à 64 ans. Tout un symbole. À compter de 2023, grâce à ses super-profits peu taxés, Rodolphe Saadé va investir massivement dans la presse. Rachat de La Provence, de La Tribune, création de La Tribune Dimanche pour concurrencer le JDD de Vincent Bolloré. Saadé est partout. Et au fil des mois, il va multiplier les unes complaisantes pour le président qui protège ses super profits. En 2024, en rachetant BFM TV et RMC à Patrick Drahi pour 1,5 milliard d'euros, Saadé devient encore plus influent.
S'il choisit soudain d'investir massivement dans la presse, de racheter BFM TV et RMC, c'est bien évidemment dans une relation très particulière avec le pouvoir.
Rodolphe Saadé chercherait-il à avoir prise sur l'Élysée, un peu comme Vincent Bolloré ?
C'est le maximum de l'influence qu'on puisse s'offrir en France, BFM et RMC ?
Je ne le regarde pas comme une influence, je regarde comme une activité qu'on peut développer. Et c'est là où moi j'interviens en tant que nouvel actionnaire, en leur donnant des moyens à BFM pour pouvoir grandir, se développer à l'international et être encore plus rentable qu'aujourd'hui.
Merci Rodolphe Saadé.
Je vous en prie.
Et merci Sonia De Villers, 7h59.
Mais lors d'une réunion à BFM TV, convoquée quelques semaines auparavant, loin des caméras, le nouveau propriétaire de la chaîne s'était montré moins langue de bois en réponse à la question d'un journaliste.
Et si demain, il y a un scandale à la CMA-CGM et que ça fait la une de nos antennes, vous réagissez comment ?
Pas bien. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je considère qu'à un moment donné, il ne faut pas cacher l'info. Mais de là, depuis que je suis propriétaire de La Provence, chaque fois qu'il y a une information sur CMA-CGM, elle est en tout petit. Et des fois, je me dis que j'ai mis autant d'argent pour avoir que des petits encarts dès que ça concerne CMA-CGM, c'est un peu dommage. Je vous prends un exemple extrême, mais j'interviens pas. Ils veulent faire comme ça, c'est leur choix. Mais je considérerais que c'est très agressif de la part d'un des médias qui appartient au groupe d'avoir une attitude agressive vis-à-vis de son actionnaire. Que l'information, on la relate, j'ai pas de problème, et c'est normal qu'elle soit relatée dans la presse ou dans un média audiovisuel. Mais il y a manière et manière.
Cette formule de Rodolphe Saadé, de nature à encourager l'autocensure, a fait marrer l'un des journalistes présents.
C'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant. Mais après, je pense que c'est la définition même de tous les principaux médias aujourd'hui, quoi. Et puis voilà, c'est une expression assez connue qu'on s'en sent à l'aise que quand on tire dessus. On sait très bien que, par exemple, le terme génocide, on sait qu'on ne peut pas l'utiliser, vous voyez, sans même qu'on nous le dise. Mais en fait, c'est tellement désapprouvé par ce qu'on peut voir sur notre propre antenne. Et en fait, on va se faire reprendre. Et du coup, on ne dit pas quoi. Tous les gens, à différents niveaux de la hiérarchie, ont bien intégré ce qui était possible et ce qui n'était pas possible de faire.
à BFM TV, peut-être. Mais à La Provence, le quotidien marseillais racheté par Saadé en 2022, les journalistes vont se montrer nettement plus rebelles. Le jour même où Saadé était à BFM TV, Emmanuel Macron se déplaçait à Marseille. Dans le quartier de la Castellane, gangréné par le trafic de drogue, le président va montrer les muscles devant les caméras.
Tout va bien ? Tout se passe bien ?
Tout se passe parfaitement bien.
Ce qu'on a voulu faire, c'est ce que j'annonçais le 16 janvier dernier, c'est maintenant systématiser des opérations place nette où on concentre beaucoup de moyens pour avoir des résultats supplémentaires ou aller au bout de ce travail.
Le lendemain, le directeur de la rédaction de La Provence, Aurélien Vierce, valide cette une frappante.
Il est parti et nous on est toujours là.
Selon ce chercheur spécialiste de la délinquance, cette une était pertinente car les coups de com' politiques n'ont jamais été efficaces contre le narcotrafic.
Tous les présidents et tous les ministres de l'Intérieur, depuis Sarkozy et même avant, ont tous été à Marseille, ont tous été dans les mêmes quartiers, se sont tous fait filmer avec des kalachnikovs, des liasses de billets et des saisies de drogue. Et ils ont tous dit leur détermination absolue à gagner la guerre. Voilà. Donc en fait, on a surtout une indignation morale. Comme on ne peut rien faire, l'idée c'est qu'on va dire que c'est absolument insupportable. Et ça, c'est la stratégie de communication qui est celle de M. Darmanin, mais qui était celle de ses prédécesseurs. Et pour le trafic de drogue, c'est intéressant aussi de voir que les approches style opération XXL, où là on fait 150 interpellations en une fois, en fait, le trafic reprend immédiatement. Donc ce ne sont pas des méthodes qui sont efficaces.
Et voilà, c'est un peu ce que sous-entendait La Provence. Mais du coup, cette une aurait fortement déplu à l'Élysée. Selon Blast, le président en personne aurait appelé Rodolphe Saadé pour s'en plaindre. Du coup, le directeur de publication de La Provence, Gabriel Darcourt, aurait été convoqué au siège de la CMA-CGM pour s'expliquer. Cette représentante syndicale va nous raconter l'incident.
On avait un comité social extraordinaire, enfin un comité d'entreprise le lendemain. Donc avec mes collègues, on entend dire que notre directeur général, Gabriel Darcourt, aurait été convoqué à la tour pour s'expliquer sur cette une. La tour, c'est ce qu'on appelle le bâtiment de Rodolphe Saadé, la tour de la CMA-CGM. Donc on monte voir notre directeur à l'issue de ce CSE pour lui demander s'il a vraiment été convoqué pour l'histoire. Donc il ne nous confirme pas avoir été convoqué, mais il ne nous dit pas non plus « non, j'ai pas été convoqué ».
Le fait est que le lendemain, le directeur en question va se confondre en excuses à la une du journal.
La une de La Provence de jeudi a ému beaucoup d'entre vous. En effet, la citation en une et la photo d'illustration qui l'accompagnait ont pu laisser croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidés à narguer l'autorité publique, ce qui ne reflète en rien les valeurs et la ligne éditoriale de votre journal. Nous avons induit en erreur nos lecteurs et La Provence leur présente ses plus profondes excuses.
Ce qui va intriguer la rédaction, c'est la phrase « La une a ému beaucoup d'entre vous ». Car en réalité, aucun lecteur ne s'était plaint.
On a un système au sein de l'entreprise qui permet à chaque lecteur de pouvoir rebondir personnellement sur chaque article et d'interpeller le journaliste. Et on n'a absolument eu aucune remarque, aucune plainte, aucun coup de fil, aucun écrit, rien au sujet de cette une.
Notre syndicaliste interpelle alors le big boss de la branche média de CMA-CGM, Jean-Christophe Tortora.
Donc je demande à Jean-Christophe Tortora... qui a appelé, qui s'est fait remarquer au sujet de la une. Et il nous explique que, très naturellement, ce sont des gens de la Castellane, des habitants de la Castellane, qui l'ont appelé, lui, directement, le patron de Why Not Media. Donc moi, je suis contente de savoir que des habitants de la Castellane ont le 06 de Jean-Christophe Tortora, parce que moi, je ne l'ai toujours pas.
En clair, les journalistes ne croient pas un instant que des habitants des quartiers nord de Marseille se soient plaints de leur une. Là-dessus, coup de théâtre, ils apprennent qu'Aurélien Vierce, leur directeur de la rédaction qui avait validé la une sur Macron, est viré.
Alors là, je je suis estomaquée, honnêtement, j'hallucine. C'est la première fois, en fait, c'est la première fois qu'il y a une telle ingérence, oui, complètement. Et en plus, qu'il y avait des conséquences graves, quoi, de renvoyer quelqu'un. Ça portait atteinte à notre crédibilité. Il y a beaucoup de jeunes journalistes à la rédaction qui pourraient être tentés de s'auto-censurer. Donc, la rédaction, très naturellement, s'est mise en grève pendant 4 jours pour soutenir son directeur de la rédaction.
Et au bout de ces 4 jours, les salariés obtiennent la réintégration de leur directeur.
Et Saadé sera obligé, mais Saadé, ultra-macronien, au point de prendre des mesures de sanction de son directeur. Voilà, donc c'est l'univers quand même qui est très inquiétant.
Si BFM TV, RMC, La Tribune et La Provence sont désormais sous la coupe d'un milliardaire protégeant lui aussi Macron, quoi qu'il en dise, le président pactise depuis 2014 avec un troisième soutien encore plus influent, Bernard Arnault, homme le plus riche de France et véritable sponsor du couple présidentiel. Empereur du luxe, propriétaire de LVMH, mais aussi du journal Le Parisien, le milliardaire Bernard Arnault avait appelé à voter Emmanuel Macron dès 2017 dans son quotidien économique Les Échos. Parmi les deux branches de l'alternative électorale qui se présente aux Français le 7 mai prochain, l'une est une branche morte. C'est celle de l'enfermement, de la peur, des aigreurs. C'est celle de l'illusoire protection qu'on appelle protectionnisme, qui ne protège contre rien, stérilise les échanges et rabougrit les volontés. Tout dans le programme de Marine Le Pen, en dépit de son habillage de souveraineté, respire la crainte et la faiblesse. C'est sans hésiter que je vote pour Emmanuel Macron. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, les couples Macron et Arnault sont proches. En avril 2018, Jean-Jacques Bourdin va faire allusion à cette amitié lors d'un monologue présidentiel sur l'optimisation fiscale des plus riches.
Parce que le scandale, il est là. Parce que vous avez des opérateurs du numérique qui concurrencent des artisans, des acteurs français qui payent la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. Donc ce scandale moral, je le ressens en même temps que vous, mais il faut qu'on puisse le déconstruire proprement. Ils ne payent pas les impôts en France. Ça remonte en Irlande, parce que le taux d'impôt sur les sociétés est très bas et que la propriété intellectuelle a été localisée là. Puis on emmène tout l'argent aux Pays-Bas, parce qu'il n'y a plus de taxes dans un pays de l'Union européenne. Et ensuite cet argent va aux Bermudes parce qu'il y a un traité bilatéral.
Il y a ce que fait votre ami Bernard Arnault.
Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin.
Oui. J'ai pas d'amis.
Non, j'ai pas d'amis. De là où je suis, vous savez, il y a une chose, vous me parliez de la solidarité. Vous me parliez
de l'amitié.
Non, vous me parliez.
Si officiellement Emmanuel Macron n'a pas d'amis, son épouse en revanche est très copine avec celle de Bernard Arnault. En mars 2024, elle s'amusait à essayer des filtres Snapchat dans un resto parisien avec la star Aya Nakamura. Dans les années 2000, au prestigieux lycée Franklin à Paris, Brigitte était devenue la prof des enfants Arnault. Puis elle s'était rapprochée de la fille aînée de Bernard, Delphine, épouse de Xavier Niel, qui en a fait une égérie officieuse de LVMH. Depuis 2016, la famille Arnault lui prête gracieusement des tenues Louis Vuitton à près de 3000 euros pièce pour chacune de ses sorties. Et depuis 2019, l'homme le plus riche de France dépense également des millions d'euros pour financer Live, des écoles privées que la première dame préside un peu partout en France.
L'inauguration d'une école de la deuxième chance en présence de sa présidente Brigitte Macron et Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH qui finance l'association.
En septembre 2024, ils inauguraient un sixième campus au Havre, dans le fief d'Édouard Philippe.
Le problème de cette école, c'est qu'elle est présidée par Brigitte Macron, elle est intégralement financée par LVMH. Donc là, on rentre dans quelque chose, un mélange des genres, qui est quand même proprement fou. C'est-à-dire que la femme du président de la République s'allie dans une action avec l'homme le plus riche de France, et selon les périodes du monde, selon le cours de bourse de LVMH. Donc là, on arrive dans quelque chose qui, à mon sens, doit être dénoncé, doit au moins être pointé, porté à la connaissance du public.
D'autant que les liens financiers entre Bernard Arnault et la Macronie ne s'arrêtent pas là. Depuis quelques années, l'empereur du luxe s'applique aussi à recaser des proches du président, comme Ismaël Emelien. À l'été 2018, ce conseiller spécial d'Emmanuel Macron s'était pris les pieds dans l'affaire Benalla. Pour discréditer le jeune homme frappé par son collègue de l'Élysée, Emelien avait récupéré illégalement une image de vidéosurveillance montrant un passant jetant une bouteille sur la police. Il l'avait fait diffuser sur Twitter via un compte anonyme avec cette légende. Ne faisons pas passer cet étudiant pour un garçon bien sous tout rapport. C'était un individu violent qui était venu sciemment place de la Contrescarpe pour casser du flic. Problème, ce passant montré du doigt par Emelien n'était pas le garçon frappé par Benalla. Quand la manip éclate au grand jour, Emelien doit quitter l'Elysée. LVMH le récupère alors comme conseiller environnement. En 2022, c'est Clément Léonarduzzi, ex-chargé de com' du président, qui se met à conseiller LVMH depuis Publicis. En plus de faire travailler des proches du président, Bernard Arnault n'hésite pas à le défendre publiquement en cas de révolte populaire.
Tausende gilets jaunes, die sogenannten gelben Westen, drängen auf die Champs-Élysées.
Le monde de ce soir, à la capitale française, Paris, nous sommes maintenant dans la rue Champs-Élysées, comme vous l'entendez.
The protests were sparked by planned rises to fuel taxes, part of President Macron's green agenda.
En 2019, les journaux télévisés du monde entier documentent la violence de Macron contre les gilets jaunes. Mais l'empereur français du luxe, lui, va le défendre sur Radio Lagardère.
Depuis l'arrivée du président Macron à la présidence de la République, l'image de la France, son attractivité s'est beaucoup améliorée.
Ce qui s'est incontestablement amélioré sous Macron, c'est le business de LVMH. Notamment quand, grâce à l'exécutif, Bernard Arnault avait économisé près d'un demi-milliard de dollars sur le dos d'un bijoutier américain. C'est l'affaire Tiffany. On vous explique. En 2019, Bernard Arnault s'engage à racheter le prestigieux joaillier américain Tiffany pour 16,2 milliards d'euros. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, plus de 14 000 salariés à travers le monde. L'empereur français du luxe se frotte les mains.
Tiffany, c'est un mythe. C'est un mythe pour les Américains et c'est aussi un mythe mondial. La petite boîte bleue, c'est quelque chose qui fait rêver. Et d'ailleurs, Tiffany, je crois, est la seule marque au monde qui est propriétaire d'une couleur.
Mais en septembre 2020, avec la catastrophe du Covid qui confine la planète, le bijoutier américain perd 15% de sa valeur. Du coup, Bernard Arnault voudrait renégocier son prix à la baisse. Problème, le contrat américain est verrouillé. Le seul prétexte qui autoriserait LVMH à renégocier, ce serait que l'État français évoque un cas de force majeure. La suite nous est racontée par cette journaliste de Mediapart.
Évidemment, il va à l'Élysée, il trouve une oreille très attentive à sa demande auprès d'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Mais il faut quand même trouver, ça ne peut pas être l'Élysée directement qui invoque le cas de force majeure puisqu'il n'en a pas les possibilités institutionnelles.
Bernard Arnault va alors obtenir un rendez-vous à Bercy, dans le bureau de Bruno Le Maire. Il va lui demander d'intercéder en sa faveur auprès de Washington. Mais selon Le Monde, le ministre l'aurait envoyé bouler. La différence entre vous et moi, c'est que moi je n'ai rien. Ou plutôt si, j'ai deux choses qui ont du prix. Ma popularité et mon honneur. Si je perds ça, je n'ai plus rien. Du coup, Bernard Arnault va se tourner vers le Quai d'Orsay. Pour l'aider à payer Tiffany moins cher, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accepte de lui adresser ce courrier. Le gouvernement américain a décidé d'instaurer de nouveaux droits de douane sur certains produits français, en particulier dans le secteur du luxe, en réaction à l'adoption par la France d'une taxe sur les services numériques. Par conséquent, les projets d'investissement d'entreprises françaises dans des secteurs pouvant faire l'objet de sanctions doivent être réévalués. Vous devriez différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021. En clair, un ministre de Macron fait semblant d'invoquer les intérêts nationaux pour permettre à Bernard Arnault de casser son deal avec Tiffany sans en payer les frais.
On n'a jamais vu ça, parce que nous sommes dans un cadre privé. C'est une opération boursière, donc l'État français n'a pas à se mêler d'une opération boursière privée qui ne met ni de près ni de loin en cause les intérêts de souveraineté française, si je puis dire. La France a aucun intérêt dans cette opération que LVMH rachète Tiffany ou pas Tiffany. S'il y a un domaine où on est vraiment dans le ressort du droit privé, c'est bien ça. Et si Monsieur Bernard Arnault risquait des mesures de rétorsion commerciale, c'était son problème, c'était pas le problème de la France.
Grâce à cette très opportune intervention de Jean-Yves Le Drian, LVMH rachètera finalement Tiffany 425 millions de dollars moins cher que prévu. Quelques mois plus tard, c'est en grande pompe que Bernard Arnault invitera son ami Emmanuel Macron à inaugurer la Samaritaine, son nouveau temple du luxe, devant les caméras de LVMH.
Je voudrais remercier tous les participants qui sont de la Samaritaine, tous les participants extérieurs, tous les artisans pour le travail magnifique qu'ils ont accompli.
Bon, on n'a jamais vu un président de la République inaugurer l'ouverture d'un magasin. C'est pourtant Macron qui est présent aux côtés de Bernard Arnault. C'est une scène inouïe lors de l'ouverture de la Samaritaine. Il faut regarder cette vidéo.
Je suis extrêmement fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. La capacité aussi à restaurer, réinventer les lieux qui ont fait l'histoire de nos villes, de notre nation, est essentielle.
C'est une vidéo folle dans ce qu'elle raconte du monde social d'Emmanuel Macron. Puisqu'il est là, avec Bernard Arnault, qui est également entouré de ses proches, c'est l'Ancien Régime. Et ces aristocrates rentrent dans leur magasin.
Des aristocrates modernes qui se croient parfois tout permis. En 2013, le réalisateur François Ruffin prépare « Merci patron », un documentaire explosif dénonçant les délocalisations de LVMH. Inquiet, Bernard Arnault va missionner l'ancien chef espion de Nicolas Sarkozy pour surveiller secrètement Ruffin avec l'aide des services de l'État. En 2020, Mediapart publiait des enregistrements judiciaires de Squarcini fomentant avec le bras droit de Bernard Arnault l'infiltration de Fakir, le journal de Ruffin.
Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la
Fakir.
Le côté ordre public, donc j'ai saisi l'ancien service, puis surtout la préfecture de police et la direction de la sécurité publique.
Plus ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils font du racolage.
Oui, c'est ce que je vais regarder avec les gens concernés.
Voilà, super.
Pour avoir fait infiltrer et espionner illégalement le journal de François Ruffin, LVMH risquait une amende pouvant approcher 30% de son chiffre d'affaires, soit près de 14 milliards d'euros. Mais en décembre 2021, le parquet national financier a proposé à l'empereur du luxe un incroyable deal. Échapper à tout procès, en échange d'un chèque de 10 millions d'euros. Cette convention judiciaire d'intérêt public, dite CEGIP, Bernard Arnault la détaillait devant le Sénat début 2022.
Le juge nous a proposé cette transaction afin d'éviter que nous soyons pris dans cette affaire à laquelle on n'avait rien à voir, et notamment aucune responsabilité. Voilà. Quant à M. Ruffin, Monsieur Ruffin, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de très brillant, qui est d'extrême gauche, et pour lequel le groupe LVMH depuis toujours est un épouvantail. Alors pourquoi sommes-nous un épouvantail? Parce que nous sommes français, parce qu'on embauche en France, parce qu'on crée des ateliers en France, et que c'est un contre-exemple tellement flagrant pour sa stratégie de communication qu'il est obligé d'essayer de trouver des poux dans la tête partout. Et si on a essayé d'éviter que M. Ruffin, lors d'une assemblée générale où il avait prévu de venir pour enfariner tout le monde, puisse entrer dans la salle, franchement, c'est pas le problème.
À l'automne 2024, Bernard Squarcini et une dizaine de barbouzes qui avaient espionné illégalement Ruffin à la demande de LVMH étaient jugés à Paris. Grâce au chèque de 10 millions d'euros payé par LVMH, Bernard Arnault, lui, n'est convoqué ce jour-là que comme simple témoin. Mais avec Élise Lucet, on va tenter de l'interroger.
Pourquoi est-ce que vous faites espionner illégalement des journalistes?
Monsieur Arnaud,
pourquoi vous faites espionner illégalement des journalistes?
Monsieur Arnaud, est-ce que vous avez lancé, oui ou non, des opérations d'espionnage vis-à-vis d'un de vos concurrents ou de certains journalistes?
Devant la cour, avec François Ruffin à sa gauche, l'empereur du luxe va marteler son message. En substance, je n'ai aucune responsabilité dans cette opération dont je n'ai pas eu à connaître. Mais à la sortie de l'audience, François Ruffin va mettre en doute la version de l'homme le plus riche de France.
On a un Bernard Arnault qui, là, à l'audience, a tout oublié ou tout ignoré. Il se trouve que pendant 3 ans, j'ai été espionné jusqu'à mon domicile. Il y a des trombinoscopes qui figurent au dossier avec les photos de mes enfants, avec des numéros de plaques minéralogiques, avec des adresses personnelles. La chef de cabinet de Bernard Arnault est au courant. Le numéro 2 de LVMH est au courant. C'est même lui qui commandite une infiltration à l'intérieur du journal Fakir. Et M. Arnault vient à la barre en disant « Je ne sais rien ». Il ne sait rien de rien. Et il avait déjà menti sous serment devant la commission d'enquête du Sénat en disant que je venais là pour enfariner tout le monde. Le dossier révèle que j'ai jamais eu un gramme de farine sur moi. En disant que la CGIP était une reconnaissance de non-culpabilité, ça n'est pas du tout ça. Et en disant surtout que LVMH n'avait rien à faire dans cette affaire. LVMH apparaît à toutes les pages de ce dossier. LVMH est le commanditaire de l'infiltration par le biais de Pierre Godet. Et LVMH est le bénéficiaire permanent des pressions qui se sont effectuées sur Fakir, mais au-delà des pressions que par des détectives privés, M. Bernard Arnault fait sur la presse depuis 40 ans, et en particulier sur le magazine Complément d'enquête qui a été diffusé en 2014. Donc il y a là des mensonges de Bernard Arnault renouvelés sous serment à nouveau devant le tribunal. Je ne pense pas que M. Arnault prenne au sérieux la justice de notre pays. Il a déjà payé 10 millions d'euros pour échapper à être aujourd'hui sur le banc des prévenus, mais là, il vient sous serment faire des déclarations qui sont mensongères.
Le 7 mars 2025, la justice a condamné Bernard Squarcini, ancien chef du contre-espionnage français, à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 200 000 euros d'amende pour avoir détourné les moyens de l'État au profit de LVMH. Bien que son empire du luxe ait fait espionner le journaliste François Ruffin, Bernard Arnault ne semble pas trop voir le problème que ça peut poser pour la liberté de la presse.
On est dans un pays où les médias sont libres. Aujourd'hui, si on veut faire sortir, un journaliste veut faire sortir un article négatif sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur un responsable politique, un article négatif sur un dirigeant d'entreprise, il peut le faire. Évidemment, il faut que ce soit un article fondé ou avec des arguments. Il peut le faire. On est quand même dans un pays où la liberté de la presse, la liberté de la communication est assurée.
En réalité, la liberté de la communication, c'est évidemment pas la passion de Bernard Arnault. En septembre 2024, il allait jusqu'à imposer au cadre de LVMH une interdiction absolue de parler à une dizaine de médias indépendants, comme Mediapart ou Le Canard Enchaîné. Et dans les journaux de Bernard Arnault, il ne fait pas bon critiquer Emmanuel Macron. En décembre 2020, le président poste cette petite vidéo sur YouTube.
Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence. Un moment de pas de chance aussi.
Mais quand le Parisien cite Emmanuel Macron à la une, Arnault pique une crise. Selon Le Monde, il aurait mis la pression sur Jean-Michel Salvatore, le directeur de la rédaction du journal, en ces termes. Si vous ne vous sentez pas capable de faire ce job, on va trouver quelqu'un qui le sera. Lors de la révolte des retraites, Bernard Arnault va à nouveau instrumentaliser ses journaux pour protéger Emmanuel Macron.
On va tout bloquer !
Le 6 mars 2023, après 5 jours d'une grève ultra-populaire, c'est du point de vue des usagers du métro parisien que le quotidien de Bernard Arnault décide de se placer. Décryptage d'une représentante des journalistes.
On voit même en le choix de la photo à la une, c'est les gens qui attendent devant le métro bondé. Donc ce qui montre en fait les conséquences des grèves, mais pas les manifestations, les grèves ou les raisons de ces grèves, de ces manifestations, etc. Et c'est vraiment ça qu'on a reproché, nous, à la direction de la rédaction, c'est d'avoir, pour nous c'était un refus, d'avoir refusé de montrer à la une la colère d'une majorité de Français, si on en croit les sondages à ce moment-là.
Autre exemple, avec le passage en force de la réforme des retraites, début 2023.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.
Au moment où la Première ministre Elisabeth Borne choisit d'opter pour le 49-3 pour faire passer cette réforme, je crois que l'ensemble de la presse titre sur le passage en force, ou en tout cas à peu près cette thématique-là, et nous on titre « Le gouvernement joue la sécurité ». Et c'est au lendemain de ce titre-là que la rédaction s'est mobilisée en se disant « Non mais c'est pas possible parce qu'on avait l'impression d'être ridicule à titrer ça ». Pour nous c'était pas la réalité en fait, ou c'était une manière de très très édulcorée de parler de la réalité qui était celle d'un passage en force politique. L'impression que ça a donné à beaucoup dans la rédaction, c'est que c'était une manière d'habiller une réalité qui était un petit peu plus simple que ça, qui était que le journal était assez explicitement pro-gouvernement et pro-Macron.
Si Bernard Arnault a tendance à défendre la Macronie, on sait moins qu'il finance les médias Bolloré via ses marques de luxe. Alors que le collectif Sleeping Giants et même Elisabeth Badinter de l'agence Publicis tentent depuis quelques mois de dissuader les annonceurs de financer le JDD d'extrême droite façon Geoffroy Lejeune, Bernard Arnault a été le premier à y acheter des pages de pub à coût de dizaines de milliers d'euros.
En d'autres temps, jamais Bernard Arnault n'aurait continué à porter de la publicité au JDD. Là, ils ont continué. LVMH continue à être l'un des principaux financeurs du JDD.
Et quand par hasard un article du Parisien risque de gêner Vincent Bolloré, il se retrouve souvent cantonné au site web du journal.
Il y a des papiers qui sont faits, qui sont paraissent sur le site, mais qui n'ont pas trouvé leur place dans le journal papier. Je pense notamment au moment où la rédaction du JDD s'est mise en grève après le rachat du journal par Bolloré. On a une rubrique média. À ce moment-là, ce sujet a fait quand même pas mal de remous, y compris à l'Assemblée nationale, dans le milieu politique. Ça valait, à notre sens, des sujets. On a posé la question sur ce thème précis à la direction de la rédaction, qui nous a répondu que ça n'intéressait pas les gens et que c'est pour ça que ça figurait pas.
Les tractations entre LVMH et le groupe Bolloré pour se partager les médias Lagardère auraient-elles favorisé une certaine autocensure ?
On remarque quand même que il y a une gêne à parler de Bolloré et on suspecte que c'est parce que ces derniers mois, il y avait sans doute des négociations en cours entre le groupe LVMH et Bolloré et que on imagine, mais là, quand je vous dis, on imagine que la consigne est passée qu'il fallait pas parler de Bolloré.
Autre victime collatérale de ces tractations LVMH-Bolloré, le directeur de la rédaction des Échos. Début 2023, Nicolas Barré avait doublement contrarié Bernard Arnault. D'abord en évoquant un livre d'Éric Orsenna assimilant Bolloré à un ogre, ensuite en osant évoquer des problèmes fiscaux de LVMH. Un article aujourd'hui disparu du site des Échos.
Et Bernard Arnault qui fait congédier sur un coup de téléphone le directeur de rédaction des Échos, donc rentre en conflit frontal avec sa rédaction et se permet pendant un an de laisser la crise se poursuivre. Donc quand on parle de ces gestionnaires, de ces hommes d'affaires formidables, etc., Bernard Arnault n'a cessé de détruire de la valeur, pour reprendre leur vocabulaire, aux Échos. Je veux dire, un patron correct d'une entreprise ne laisse pas cette entreprise, en l'occurrence le quotidien des Échos, pendant un an sans directeur de la rédaction. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est simplement dingue.
Interrogé au Sénat début 2022 par le sénateur communiste Pierre Laurent, Bernard Arnault assumait son interventionnisme éditorial.
J'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne... financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et s'il y a une indépendance absolue, totale, on ne sait jamais. Donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre. De même si, je prends un exemple stupide, mais si les Échos, demain, devaient défendre l'économie marxiste, qui plaît peut-être à M. Laurent, on ne sait rien, mais bon, ce serait quand même extrêmement gêné. Il faut quand même qu'il y ait des garde-fous.
Si Bernard Arnault bénéficie d'une telle impunité, c'est notamment parce que c'est l'homme le plus riche de France. En 2023, Emmanuel Macron a un problème. Il manque 150 millions d'euros pour financer les JO de Paris. Ni une, ni deux, les pouvoirs publics sollicitent Bernard Arnault comme il le confiera au Monde. C'est la seule chose qu'on m'ait vraiment demandé et à laquelle finalement j'ai cédé. Ce qu'on sait moins, c'est que l'affaire avait failli capoter. En mai 2023, le Premier ministre Gabriel Attal avait osé évoquer dans le Monde la fraude fiscale des puissants. Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Mais quelques mois plus tard, Attal avait étrangement retourné sa veste dans un débat organisé par la presse de Bernard Arnault. Je ne peux pas laisser dire que les riches ne contribuent pas pleinement à la nation. Par exemple, Bernard Arnault est le plus gros contribuable français. Attal aurait-il cédé à des pressions de l'empereur du luxe ? Bernard Arnault le confirmera en personne. J'ai protesté auprès de lui. Et d'ailleurs, vous observerez que à la suite de ma protestation, il a rectifié de lui-même. Le 13 mars 2024, même Emmanuel Macron lui fera allégeance en le décorant du plus haut grade de la Légion d'honneur devant de nombreuses stars mondiales comme Beyoncé, Jeff Koons, Elon Musk, mais aussi Vincent Bolloré. Ce jour-là, le propriétaire du groupe Canal avait rendu hommage à son ami Bernard devant l'Assemblée.
Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié.
Il y a une sorte d'entente entre lui et Bernard Arnault, puisqu'il s'apprête à recéder Paris Match à Bernard Arnault, qui en rêve, et qui en rêve tellement qu'il est prêt à mettre 120 ou 130 millions d'euros sur la table pour en prendre le contrôle, alors que le journal perd de l'argent. Donc c'est sidérant.
C'est pas un secret, il a envie de match. Voilà, il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon.
Et à force de fréquenter Vincent Bolloré, comme ici au Puy du Fou avec Philippe Devilliers en août 2024, Bernard Arnault deviendrait de plus en plus tradi.
Les femmes, mettez vos sabots plus tôt.
Voire vieille France. Quelques jours plus tôt, dans un autre château fort, présidentiel celui-là, Bernard Arnault et son épouse déjeunaient avec les couples Macron et Sarkozy à Brégançon. Entre la poire et le fromage, l'homme le plus riche de France aurait suggéré que Thierry Breton ou Gérald Darmanin soient nommés à Matignon, ou au moins pas un premier ministre de gauche comme Lucie Castet.
Et là, je pense qu'on vit dans une époque où les élites françaises, l'oligarchie française, dont Macron est le symbole, ont intériorisé le fait que c'est maintenant là que les choses se passent. Ce dont on débat, c'est des thématiques de l'extrême droite. Il y a une forme d'entente entre les milliardaires qui dit bien que chacun observe Bolloré en disant qu'il annonce le monde vers lequel on risque de basculer.
En mars 2024, interrogé sur ses orientations idéologiques par une commission d'enquête de l'Assemblée sur les fréquences TNT, Vincent Bolloré se présentait comme un actionnaire débonnaire, voire tout doux.
J'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate chrétien. J'ai aucun projet idéologique. Et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila.
En réalité, avec son empire médiatique inégalé, Canal+, CNews, longtemps C8, le JDD, Europe 1, le célèbre milliardaire mène un combat civilisationnel, imposer dans le débat public les thématiques de l'extrême droite.
L'âge venant, Bolloré a décidé de mettre sa fortune et ses intérêts au service de ses obsessions idéologiques. Donc, obsessions réactionnaires, obsessions religieuses, xénophobes, enfin bon, voilà, on est là dans la matrice de l'extrême droite française et il a trouvé tous ses relais d'Éric Zemmour Pascal Pro, enfin voilà, toute la fine équipe.
En 2021, Vincent Bolloré rêve d'ajouter le groupe Lagardère, Paris Match, le JDD, Europe 1, Hachette et ses relais H à son empire médiatique. De quoi inquiéter Emmanuel Macron.
Il y a eu quand même une grande crainte à l'Élysée de voir émerger un groupe aussi puissant. Puisque c'est de la télé, c'est de la radio, c'est de la presse écrite, c'est de l'édition. Donc de voir émerger une telle puissance médiatique mise au service de l'extrême droite.
Le 22 octobre 2021, Hervé Gattegno est remplacé à la tête de Paris Match par Patrick Mahé, un proche de Vincent Bolloré qui militait au groupe d'extrême droite Occident dans les années 70.
Le mouvement a pour ambition de réunir et d'unifier toutes les forces nationalistes.
Les mouvements d'extrême droite sont venus au meeting sous la même bannière. Anciens du mouvement dissous Occident, militants de l'ex-OAS, jeunes étudiants du groupe Union Droit et nationalistes de tous horizons.
Près de 50 ans plus tard, sous la houlette de Patrick Mahé, ce courant politique a tendance à contaminer Paris Match, où les papiers sur les cathos tradis se multiplient dans l'album de famille des Français. Fin 2021, par exemple, Match va promouvoir « Quand la science prouve l'existence de Dieu », un livre coécrit par Michel-Yves Bolloré. Ça tombe bien, c'est le frère de Vincent. Sur CNews, le chroniqueur d'extrême droite Éric Zemmour est tous les jours à l'affiche de Face à l'info.
Au Moyen-Âge, l'Europe était christianisée. Elle a trouvé en elle des ressources pour résister à l'invasion islamique.
En novembre 2021, alors qu'il n'est même pas encore candidat à la présidentielle, un premier sondage le donne qualifié au second tour face à Emmanuel Macron.
Oui, un nouveau sondage qui donne le polémiste Éric Zemmour, puisqu'il est encore polémiste au second tour de la présidentielle, mais à...
C'est dans ce contexte de rivalité politique grandissante qu'un dossier industriel inattendu va amener l'Élysée et le groupe Bolloré à se rapprocher. Car avant d'être un magnat des médias, le célèbre milliardaire est un empereur de la France-Afrique.
L'Afrique, cœur de l'Empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques.
En 2021, son groupe est à la tête du plus grand réseau logistique du continent noir. 42 ports, 2700 km de voies ferrées, 20 000 salariés. Problème ? En Afrique, Vincent Bolloré est empêtré dans plusieurs affaires de corruption. En 2010, il aurait illégalement financé des campagnes présidentielles au Togo et en Guinée-Conakry en échange de concessions portuaires. En février 2021, épinglé par la justice française pour corruption active d'agents publics étrangers et complicité d'abus, Bolloré accepte une reconnaissance préalable de culpabilité. En clair, son groupe s'achète une impunité pour 12 millions d'euros. Lui, en revanche, devra finalement être jugé. Tous ces tracas auraient pesé dans sa décision de se débarrasser de son empire africain. Explication.
Quand, en 2021, on apprend que Vincent Bolloré est en train de négocier pour la vente de ses activités africaines logistiques et portuaires auprès de deux armateurs, CMA-CGM, dès l'été 2021. Puis, à l'automne 2021, on apprend qu'en fait, c'est MSC qui est sur les rangs également.
MSC, la compagnie maritime des cousins d'Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron.
Moi, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, en octobre 2021, l'Élysée, en gros, regarde le dossier de très près. C'est Alexis Kohler qui s'en occupe. Puis, fin 2021, en décembre 2021, il est officialisé le fait que MSC Bolloré entre en négociation exclusive pour le rachat des activités africaines et logistiques de Bolloré.
Et à cette époque, les cousins d'Alexis Kohler vont faire à Bolloré une offre qui ne se refuse pas. Alors qu'avant le Covid, son empire africain était évalué à environ 2 milliards d'euros, les cousins d'Alexis Kohler vont lui en proposer 5,7 milliards, presque trois fois plus.
À partir de là, on peut effectivement se poser des questions sur où se situe à ce moment-là l'Élysée dans le deal financier qui va avoir lieu quelques mois après, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle.
Avec les 5,7 milliards d'euros que Bolloré compte toucher des cousins d'Alexis Kohler, il va continuer d'investir massivement dans les médias. En juin 2022, Vivendi annonce détenir 60% du capital du groupe Lagardère. Paris Match ou Europe 1, mais aussi le groupe Hachette, tombe alors dans son escarcelle. Un an plus tard, au Journal du Dimanche, la nomination du zémouriste Geoffroy Lejeune provoque une grève historique. Mais au lieu de soutenir les grévistes du JDD, les macronistes vont se précipiter dans les bras de leur direction. Le 6 août 2023, la secrétaire d'État à la ville détaille sa politique réactionnaire pour les banlieues dans une interview au JDD, relue et validée par l'Élysée. Un coup de poignard pour les grévistes de l'hebdo et une bénédiction pour Vincent Bolloré. Car à l'époque, pour ne pas avoir attendu le feu vert de la Commission européenne pour prendre le contrôle effectif du groupe Lagardère, il risque une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires de Vivendi, soit près d'un milliard d'euros. À la rentrée 2023, loin de reprocher à Bolloré cette violation des règles européennes, Emmanuel Macron invite ses ministres à s'exprimer dans ses médias.
Vous avez la possibilité d'utiliser tous les canaux à votre disposition. Ce n'est pas parce que vous vous exprimez dans tel ou tel média que vous cautionnez la doctrine. Ça ne vaut pas validation des actionnaires et de leurs pensées.
Mi-septembre 2023, une rencontre secrète Macron-Bolloré se serait même tenue à l'Élysée.
Il y a eu un pacte de passer en septembre et à l'automne dernier. Le journal Le Monde s'en est fait l'écho par un article en citant une rencontre Bolloré-Macron à l'Élysée au mois de septembre 2023.
Dans la foulée, Emmanuel Macron aurait proposé à Vincent Bolloré que Paris Match ait un accès privilégié au roi Charles III lors de sa visite officielle en France le 21 septembre. Et en novembre, c'est au tour de Brigitte d'apparaître radieuse à la une du nouvel hebdo Bolloré. Rien à voir avec la façon dont Match traitait le couple présidentiel quelques mois auparavant. Et après ce réchauffement, les ministres macronistes se jettent tous dans les bras du Bollo JDD.
Et on voit très clairement qu'un pacte a été passé entre les deux puissances, la puissance présidentielle, la puissance médiatique de Bolloré. Puisqu'on voit les ministres qui, ça y est, ont relégitimé le journal du dimanche en étant omniprésents par leurs interviews, etc.
Et le 12 février 2024, la connivence Macron-Bolloré va faire une nouvelle victime, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. En 2023, elle avait osé rappeler sur France Inter que les médias Bolloré devaient, comme les autres, respecter la loi.
Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM ensuite, au moment de faire le bilan de ces obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées, pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. Il y a bien des obligations à respecter, et c'est mon rôle de le rappeler.
C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence ?
Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. au bout d'un combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe, c'est important.
Quelques mois après ce rappel, Rima Abdulmalak est débarquée.
Merci.
Remplacée par la sarkozyste Rachida Dati. Une éviction significative pour François Bonnet.
Qu'est-ce qu'elle fait, Rima Abdulmalak ? Elle rappelle ce qu'est la loi. Elle rappelle la règle du jeu. Elle est virée.
Et après avoir fait virer sa ministre, c'est au JDD extrême-droitisé que Macron lui-même se confie désormais.
Emmanuel Macron a toujours instrumentalisé l'extrême droite, qui avait toujours une certaine, finalement, collusion avec l'extrême droite, parce qu'il a toujours voulu construire son pouvoir en faisant de l'extrême droite son principal opposant, la principale force alternative, et il a fait ça pour marginaliser la gauche, voire même la criminaliser.
Et pour favoriser la droite de l'échiquier politique, Emmanuel Macron utilise une dernière arme, les aides à la presse. Quand Vincent Bolloré s'empare du JDD en 2023, il rejoint le club des milliardaires des médias subventionnés par l'État. C'est le système des aides à la presse. Censé garantir le pluralisme, le transport des journaux et leur modernisation, elle finance principalement Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, Xavier Niel, le groupe Bayard, Le Figaro ou Patrick Drahi. Majoritairement donc les médias dominants, souvent des journaux écrits.
Si on regarde, par exemple, les chiffres 2022, Bernard Arnault, avec ses deux journaux, Les Échos et Le Parisien, perçoit 14 millions d'euros d'aide publique. Donc, l'État finance une partie des coûts des journaux de la première fortune mondiale. On en est là.
En 2023, les aides directes ont doublé, plus de 200 millions d'euros. Et 65% de cette enveloppe sert à réduire le coût de transport de journaux papier, de moins en moins lus, au détriment des médias en ligne, notoirement plus indépendants.
Donc on finance le mort ou le mourant, au lieu de financer ceux qui naissent, ceux qui créent et ceux qui vont créer de la valeur. C'est ça qu'on fait. Je veux dire, on finance à coût de centaines de millions d'euros chaque année la distribution de journaux papier qui ne sont plus lus, alors qu'on devrait financer, évidemment, une presse numérique, indépendante, etc. Et ces financements publics se font sans conditionnalité.
Pour cet économiste des médias proche de la France insoumise, il faudrait totalement changer le système afin que les citoyens puissent choisir les journalistes qu'ils veulent soutenir.
Et je pense que ça serait mieux, justement en termes d'allocation et de justice de cette allocation, de passer du système actuel à un système où on donnerait à chaque citoyen ce que j'ai appelé des bons pour l'indépendance des médias, ça on peut appeler ça différemment, où les citoyens en fait allouerait le montant actuel des aides à la presse aux médias qu'ils préfèrent. Et puis ça créerait aussi un lien plus direct entre les médias et les citoyens, où les médias devraient convaincre justement les citoyens qu'ils ont besoin de ces ressources. Voilà, ça recréerait aussi un lien de confiance. Et ça permettrait de revoir complètement la distribution actuelle des aides à la presse.
En plus d'être sous perfusion de l'État, certains grands journaux multiplient les partenariats commerciaux avec les géants américains du numérique, au risque de tuer les médias indépendants.
Les journaux des milliardaires tendent la main à Google et Facebook pour obtenir d'eux des financements avec des systèmes fous. Je veux dire, les accords commerciaux secrets, par exemple, les accords pour les abonnements, ça a commencé par Le Monde, Le Figaro et Libé, mais si vous abonnez à ces journaux via Google, Google prend en charge la moitié du prix de l'abonnement. Donc les GAFAM ont toutes les données des lecteurs de la presse. Ça pose un problème de rupture de concurrence. C'est-à-dire que l'abonnement au Monde coûte moitié moins cher que l'abonnement à un journal numérique indépendant.
J'ai longtemps dirigé la rédaction de Mediapart. Quand vous êtes Mediapart, les premières années, que vous inventez des choses, que vous essayez de créer des choses, etc., et que vous êtes face à des journaux, par exemple, comme Le Monde, qui se prennent 8, 10 millions d'euros de subventions publiques, qui se prennent Les chiffres sont tenus secrets, mais enfin, d'après les quelques-uns qu'on fuitait, plusieurs millions d'euros de la fondation Bill Gates, plusieurs millions d'euros de Facebook et des autres GAFAM pour des productions de contenu, etc., de formats éditoriaux et tout. Ben, vous êtes mort, quoi. Voilà, tout bêtement, il faut le dire. Vous pouvez pas être dans une concurrence libre et non faussée avec des titres comme ça. Donc ça menace toute l'innovation.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés.
Protéger les milliardaires, aider à l'optimisation fiscale des plus riches, banaliser l'extrême droite, telles auront été les actions d'Emmanuel Macron durant ces deux quinquennats. Loin, bien loin de ses promesses de 2017.
Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils
Merci d'avoir visionné cette enquête refusée par toutes les chaînes. Si vous le pouvez, aidez-nous à contourner la censure du système. Faites un don.